C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 2 mai. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Température ce matin, 6 degrés, ciel nuageux. Et disons que le temps couvert, gris et pluvieux va se poursuivre. Il y a donc des averses de prévues. Pour ce qui est de Montréal, généralement nuageux, avec peut-être un peu de pluie ce matin, mais certainement des averses qui vont s'amorcer en après-midi. Il y a même un risque d'orage. Au total, on parle de 5 à 10 mm de pluie. Maximum prévu 11 degrés. En soirée, encore là, averses. Risque d'orage assez tôt, on parle de 5 mm et des températures autour de 4 degrés. Demain, mercredi, des averses se poursuivent, ajoutées à un 5 à 10 mm, et les quantités varient. Et il y a des secteurs, puis on va le voir dans les prochaines minutes, qui demeurent évidemment à risque, où il y a déjà des rivières qui ont débordé, des routes qui ont été sectionnées. Donc, ajoutons des vents de 30 à 50 km/h, et finalement, la pluie va cesser, dans la nuit de mercredi à jeudi, puis jeudi ce sera couvert, et puis vendredi, le retour du soleil. On a vu ces images quand même saisissantes hier en provenance de Charlevoix. On le sait maintenant, Baie-Saint-Paul qui est littéralement coupé en deux. Je vais retrouver sur place notre collègue de Cogeco Nouvelles, Philippe Rodrigue Comeau, qui est donc à Baie-Saint-Paul. Philippe, bonjour.
Salut Paul.
Alors tu te trouves aux abords de la rivière du Gouffre et là on peut dire là, c'est une image mais c'est une image qui résume là Baie-Saint-Paul qui est comme vraiment brisé en deux.
Ouais, pour illustrer aux gens à quoi ça ressemble à Baie-Saint-Paul là, c'est qu'il y a une rivière ou même deux devrais-je dire qui traversent le centre-ville et il y a seulement deux ponts qui enjambent ces deux rivières-là, et ces deux ponts-là sont complètement impraticables depuis hier après-midi, même que l'un d'entre eux, celui de la 138, tout près de la laiterie de Charlevoix, pour ceux qui sont allés dans le secteur, c'est affaissé, là. Il y a plus de pont au final sur la route 138 qui permet de poursuivre vers l'est, et l'autre pont est trop instable au dire des ingénieurs pour permettre aux gens de passer. Il était à moitié inondé hier, et ce matin, ce que je vois, c'est que le niveau de l'eau a baissé, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le débit reprend sur la rivière, ça recommence à monter. Il y a des ingénieurs sur le pont qui semble prendre des mesures, évaluer le tout. Mais pour le moment, il y a des gens hier qui sont partis à leur rendez-vous chez le dentiste, chez l'orthopédiste du côté ouest de Baie-Saint-Paul. Et quand il est venu le temps de retourner à la maison, ben c'était impossible. Ils se sont ramassés à dormir soit dans leur voiture la nuit dernière ou encore au refuge qui affiche presque complet avec des lits de camp qui ont été aménagés par la Croix-Rouge. Mais vraiment, les images que vous avez vues, là, ça ne ment pas. Ça paraît aussi dans le ton des gens qu'on croise, qui sont anxieux, qui se posent des questions, qui se demandent ça a été comment la dernière soirée hier avec leurs enfants qu'ils n'ont pas vu parce qu'ils sont restés avec les grands-parents de l'autre côté des rivières. Ils ne pouvaient pas y retourner. Ils revenaient de travailler. Il n'y avait aucun moyen de traverser, que ce soit par les champs, par les rangs. C'est impossible de passer d'un côté ou de l'autre, de se rendre soit vers Saint-Urbain ou les Éboulements. On est bloqué à Baie-Saint-Paul quand on arrive de Québec aujourd'hui. Il n'y a rien qui indique que ça va changer pour le moment.
Bon, on parlait hier de deux pompiers qui étaient portés disparus. Je sais qu'il y a eu des opérations de recherche. Est-ce qu'on les a localisés? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Il n'y a pas grand-chose de nouveau en termes d'indices là, qui pourraient nous dire où ils se trouveraient. Il y a différents spécialistes du module d'intervention d'urgence de la Sûreté du Québec qui sont mobilisés sur place. La garde côtière aussi, un poste de commandement qui a été établi. Ce qu'on comprend du côté de la Sûreté du Québec, c'est qu'il y a cette théorie que les pompiers auraient peut-être pu se réfugier en quelque part ailleurs, comme c'est inondé un peu partout. Ils pourraient se trouver à l'intérieur d'une maison, par exemple, ou encore, malheureusement, pourraient se trouver plus loin pratiquement jusqu'au fleuve. Là, on n'a aucune réponse à ce niveau-là. Il y a un hélicoptère qui a survolé la zone jusqu'à tard hier soir. Un avion aussi des Forces canadiennes de Bagotville, un Hercule 150 qui a fait des tournées tout au long de la soirée, mais pour le moment, aucune nouvelle de ces deux pompiers volontaires. Par contre, on ne rapporte aucun autre disparu. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu les images aussi du côté de Baie-Saint-Paul de ce quartier résidentiel. C'est un quartier, un nouveau développement. Et il y a deux chemins qui mène à ce nouveau développement-là qui compte à peu près une dizaine de rues. C'est très familial. Il y a une crevasse de plusieurs mètres qui sépare le quartier du reste de la ville. Et encore une fois, ça illustre la situation. C'est que d'un côté, il y a les enfants ou les parents qui étaient en télétravail et des enfants qui revenaient de l'école qui n'ont pas pu retourner à la maison. Tout ce monde-là, des enfants de garderie aussi, se sont retrouvés soit à l'hôtel, soit du côté du refuge qui a été aménagé dans l'école secondaire de Baie-Saint-Paul. Mais pour le moment, là, on est en mode improvisation contrôlée, devrais-je dire, là, parce que c'est quand même bien organisé. Mais les hôtels sont pleins, le refuge est plein et on sait toujours pas qu'est-ce qui arrivera pour la suite. Sinon, qu'on attend la visite du ministre Bonnardel de la Sécurité publique qui devrait faire le point cet avant-midi.
Merci beaucoup, Philippe. On se reparle plus tard. Philippe Rodrigue Comeau qui nous parlait ce matin en direct de Baie-Saint-Paul. Maintenant, notre collègue Philippe Bonneville est dans Lanaudière, plus précisément à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Et Philippe, il y a un barrage qui a cédé hier, puis il y a des centaines de maisons de chalets qui se retrouvent complètement enclavées.
Oui, absolument. Moi, je suis ici depuis le milieu de la nuit et j'ai pu aller dans plusieurs secteurs durement touchés avec le maire de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Juste pour cette petite municipalité, Paul, il y a actuellement 338 maisons ou chalets qui sont isolés, enclavés en raison de la hausse du niveau des rivières ici. Il y a eu au moins 2 glissements de terrain de répertoriés depuis hier. 21 routes ou chemins qui sont impraticables à 7h06 ce matin. Et à tout ça, il faut ajouter effectivement qu'il y a un barrage qui a cédé hier. Je suis rendu sur place tantôt en fin de nuit. C'est un barrage privé de quelques dizaines de pieds, donc pas un immense barrage. La structure en béton, elle a résisté, mais la pression de l'eau était si forte, Paul, que toute la structure en terre d'un côté du barrage, c'est ça qui a cédé, et ça a créé beaucoup, beaucoup de dommages, mais heureusement, il n'y a pas une maison qui a été emportée. Je te parlais tantôt de toutes ces maisons qui sont isolées, enclavées ici, eh bien, il y a eu plusieurs opérations de sauvetage au cours des dernières heures à l'aide de pompiers et de bateaux. Je te laisse entendre là-dessus le maire de Saint-Émilie-de-l'Énergie, Martin Héroux, à qui j'ai pu parler en fin de nuit.
Le service de sauvetage en eau vive des pompiers de Saint-Félix sont venus puis ont évacué là, au moins une vingtaine de personnes qui étaient carrément isolées. Là. Ils étaient sur leur balcon puis il y avait de l'eau partout. Fait que les pompiers ont comme un genre de zodiac qui ont pris puis sont allés sauver les gens de cette façon-là. Des crues comme ça, là, ça fait au moins 50 ans qu'on en a eu, si pas plus. Donc... On est habitué à chaque printemps, il y a la crue, il y a souvent des embarques là, au sud du village, également secteur le chemin Sainte-Marie 347, là, limite Saint-Damien-Saint-Émilie. Les gens sont habitués, l'eau monte à chaque printemps, mais là c'est exceptionnel, ça bat des records, mais des records qu'on voudrait pas battre.
Ouais, les plus graves inondations ici en plus d'un demi-siècle. La situation qui est aussi très problématique, préoccupante, un peu plus loin à Saint-Zénon, à Saint-Michel-des-Saints. Ces deux villes-là sont d'ailleurs impraticables, inaccessibles présentement en ce moment parce que la route 131, Marc Drière en a parlé tantôt, elle est fermée en raison des inondations. Et il y a d'autres pluies qui est attendue aujourd'hui. Donc évidemment, ici, ça crée beaucoup d'anxiété. On est très préoccupé par la suite des choses.
Merci Philippe, à tantôt, puis on va aller justement parler avec Marc, parce que c'est vrai là, que c'est un casse-tête pour beaucoup d'automobilistes.
Oui, effectivement, ben, des détours imposés pour ce qui est de la 131. J'ai aussi le pont Mackenzie entre Saint-Canute et Saint-Colombat qui est fermé. Et dans d'autres endroits, ce sont des bris de la route, comme la 364 à la hauteur de la rivière à Simon. Un bris de la route de ce côté, circulation en alternance. Et ça se produit à bien des endroits au Québec. Donc prévoyez le coup si vous devez partir. Évidemment, pour juste traverser vers Montréal, ça ira. Là. Mais si vous devez quitter et vous rendre dans les régions où il y a ce genre de problème, ben vraiment prévoyez le coup parce qu'il y a des endroits où vous allez vous buter à des fermetures.
Quelques notes que je peux ajouter ce matin concernant les inondations. On a vu ces roulottes emportées dans la rivière. Il y a un auditeur qui habite Saint-Irénée qui dit les gens ont vu les deux ou trois roulottes, là, mais il y en a plusieurs. Je veux pas me lancer dans un estimé, mais selon lui, il y a peut-être une vingtaine comme ça de roulottes qui ont été emportées de ce camping qui était à proximité. Deuxième chose, c'est que quand vous regardez les prévisions météo, puis déjà ça sent ce matin dans certains coins, les précipitations vont pas aider. Et c'est une drôle d'impression parce que c'est comme si depuis 2 ou 3 semaines, on regarde ça avec une certaine appréhension. On se dit, bon, ben, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait débordement de rivières, mais on avait l'impression, somme toute, que le printemps allait passer, puis que on allait éviter le pire. Or, hier, pendant que le soleil s'installait sur Montréal, ben, ça frappait durement. On vient de le voir, Charlevoix, mais on peut parler de l'Outaouais aussi ce matin. Je viens de vous parler avec Philippe de Lanaudière. Donc, c'est sûr que les prochaines heures vont être quand même déterminantes pour beaucoup de gens et comment on va pouvoir rétablir les liens qui ont été vraiment brisés. L'autre chose, faut jamais oublier l'impact de ces inondations sur les gens à long terme. Puis je veux juste rappeler quand même ce qui s'est passé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Parce que, encore, je reçois des courriels régulièrement. On sait qu'il y a un recours collectif qui a été intenté, qui a été autorisé. Depuis 2019, il y a des gens qui vivent avec les séquelles morales et financières de ces inondations qui ont été catastrophiques. Et pour les gens de Sainte-Marthe, ça demeure une responsabilité du gouvernement de la ville qui aurait dû être au fait que la digue qui avait été installée n'était pas à la hauteur de la situation et que le bris était en quelque sorte inscrit dans le temps. Et dès que le niveau de l'eau a été plus élevé, ben on a vu toutes ces propriétés qui ont été endommagées. Et l'autre chose, les dédommagements offerts ne couvrent jamais, jamais la totalité des pertes. Et beaucoup d'auditeurs, d'auditrices de Sainte-Marthe là, qui m'écoutent, là, je lis vos courriels et tout ça, il y a cette frustration, 4 ans plus tard, de ne pas être entendu, de ne pas avoir été respecté par le gouvernement. Puis le gouvernement va vous dire, ouais, mais on peut pas indemniser tout le monde puis payer au complet. C'est sûr. Mais 4 ans, c'est un peu comme, on recevait Philippe Falardeau hier après Mégantic, après le choc. Puis là, on compare pas une inondation puis lac Mégantic, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Mégantic, il y a des gens qui, 4 ans plus tard, se battent entre eux pour la fameuse voie de contournement des chicanes de citoyens. Puis pendant ce temps-là, les véritables responsables de la bombe ferroviaire s'en sortent facilement. Et on focus beaucoup sur le moment présent quand ça arrive, mais on oublie 1, 2, 3 ou 4 années plus tard comment les choses évoluent. Dans les autres nouvelles, je fais le tour ce matin, la presse nous parle encore une fois d'un autre enseignant qui est visé par une enquête pour inconduite sexuelle au collège Stanislas, qui est un collège privé à Outremont. Et là, ça fait quelques cas qui sont débusqués à ce collège. Cette fois-ci, ce sont des plaintes logées contre un enseignant d'expérience qui aurait commis des gestes de nature sexuelle. 2 élèves de niveau secondaire et une collègue de travail aurait été victime de ce professeur en question. C'est assez récent, le 2022 et même cette année. Et ce sont des gestes qui se sont étalés, dit la presse, sur quelques mois. Parle d'attouchements et de baisers non sollicités venant d'un prof qui était assez insistant. Il n'y a pas de plainte officiellement, en tout cas, connue à la police, premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'observateurs ou de gens qui sont sur le terrain vous disent que la direction de l'école a peut-être traité ça, disons, à la légère un peu et qu'on n'a pas, je dirais, pris ça trop au sérieux, en tout cas au point de départ. Et ça a pris quand même un certain nombre de plaintes. Donc le prof s'est fait tasser. Lui nie formellement, il dit qu'il comprend pas. Mais je vais citer là, il y a du sable dans l'engrenage, dans la collaboration de l'école, dit une source qui est scandalisée de l'attitude de la direction. Quelqu'un de la direction aurait dit en parlant ou en commentant ce que le prof présumément aurait fait, que c'était culturel, que tu veux, c'est un tâteux ou écoleux ou fait partie de sa nature. Alors on verra quels seront les résultats de l'enquête parce que ça va aller plus loin. Puis ajoutons qu'il y a quand même d'autres cas à ce collège qui ont été, et un cas récent là d'un prof qui, lui aussi, prof d'économie, qui fait face à une série d'accusations. Donc, ça commence à faire beaucoup de profs. En mars dernier, Alexandre Gagné, qui était accusé d'avoir exploité sexuellement une élève, 5 autres victimes entre 2019 et 2022. Puis t'as un autre prof, Denis Tifou, condamné à 10 mois de prison pour possession de pornographie juvénile. C'est sûr qu'une école secondaire pour des pédos, c'est évidemment très attirant. Puis des écoles primaires aussi. Alors là, on vise le même établissement. ça arrive au moment où vous avez les partis d'opposition qui veulent déposer un projet de loi pour faire en sorte que ce soit plus facile, plus respectueux de déposer des plaintes contre des profs, contre des membres du personnel d'une école, quand il y a des situations comme ça d'inconduite sexuelle. Des chiffres sur les garderies. Radio-Canada nous apprend ce matin que 3000 éducatrices ont quitté les garderies du Québec en une seule année. Par contre, la presse a d'autres chiffres qui disent que ça va un peu mieux dans les garderies en milieu familial. Donc, vous avez la volonté de créer des places pour répondre aux besoins des parents. Vous avez aussi beaucoup d'éducatrices qui quittent parce qu'elles sont épuisées, là, qui sont en burn-out. D'autres qui décident carrément de changer de milieu de travail, même si les conditions se sont un peu améliorées, là, si le salaire est plus adéquat. Ça demeure un enjeu important pour des parents de se trouver une place en garderie. La Société d'assurance automobile du Québec. On va en reparler ce matin, là. Hier, c'est comme s'il y avait une vague de messages de gens avec des captures d'écran, service en ligne. Vous êtes en attente pour accéder au service en ligne. Environ une heure d'attente. Ça, c'est supposé être le grand système de la Société d'assurance auto. Donc, dans les faits, vous n'êtes pas seul à vous heurter, encore une fois, à des problèmes. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça marche. Mais le fait de constater que pour beaucoup d'autres, là, notamment en cette période où on veut remettre sur la route des véhicules, où la demande est forte, ben c'est compliqué. Et souvent, même quand vous êtes en attente, ça coupe, ça casse carrément. Et c'est sûr qu'ils en ont, là, on va se le dire franchement, pour encore plusieurs mois avant d'offrir un système normal. Et je veux vous parler également ce matin d'une loi, projet de loi qui sera déposé à l'automne par le ministre Jean Boulay, pour faire en sorte que les chantiers de construction soient composés de travailleurs plus agiles. Et je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui écoutent, là, qui sont en route pour leur chantier ce matin. Pas certain qu'on comprend exactement ce que veut le ministre. On est dans les belles paroles, là, c'est-à-dire plus d'agilité, de fluidité, faire en sorte qu'il y ait, disons, des travailleurs qui puissent faire différentes tâches. Puis là, tu dis, OK, ils vont faire plusieurs tâches, mais seront-ils compétents? Qui va décider que tel travailleur peut faire telle tâche? Des négociations entre les employeurs puis les syndicats, la Commission de la construction du Québec, on ne le sait pas. Le ministre part en consultation, mais je vois les grognements ce matin, puis j'en ai reçu, je dirais de part et d'autre, d'entrepreneurs qui disent, bon, on veut que ça se fasse, mais au plus vite, parce que ça n'a plus de bon sens avec la pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas segmenter tous les corps de métier. Puis d'autres qui disent, ben, c'est aussi une question de compétence, là. C'est bien beau de dire tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Est-ce que tu peux vraiment le faire? Puis est-ce qu'on va baisser sur la qualité comme ça des services? Et puis, un mot en terminant sur le fédéral concernant la loi sur le contrôle des armes à feu, la loi C-21. Hier, on a déposé la nouvelle liste des amendements concernant ce qu'on appelle les armes d'assaut. Et là, des groupes comme Police se souvient sont absolument en colère. Ils se sentent trahis par le gouvernement Trudeau. J'imagine que les chasseurs sont un peu satisfaits. C'est tellement compliqué là, quand vous lisez ça, là, les types d'armes. Est-ce que ça permet à l'industrie de contourner? Les armes qui sont déjà sur le territoire sont pas visées. Ce sont les armes à venir. C'est clair que le NPD est pas un parti qui est un grand partisan du contrôle des armes à feu pour toutes sortes de raisons historiques. Les libéraux nous ont fait croire que oui, mais quand arrive le moment de rendre ça clair, précis dans une loi, ben ça donne des pirouettes. Puis là, je comprends des chasseurs qui se disent « Hey, pourquoi est-ce qu'on veut m'empêcher d'avoir telle arme? » Puis en même temps, je comprends aussi cette volonté de contrôler davantage les armes. Alors, là, il y a de nouveaux amendements. Sérieusement, c'est compliqué. On y reviendra sans doute un peu plus tard cette semaine.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis quelques semaines, plusieurs régions du Québec sont en mode de surveillance. Les citoyens sont un peu aux aguets, se préparent, installent des sacs de sable en se disant « Est-ce que cette année, on sera touché? » À chaque fois que les prévisions météo laissent entendre qu'il y aura de la pluie abondante, on surveille. Et puis on se dit « Bon, on l'a échappé cette fois-ci, tant mieux. » Sauf que hier, ben, ça a basculé complètement Paradoxalement, alors que le soleil se manifestait à Montréal, on a vu dans des régions comme Lanaudière, l'Outaouais et Charlevoix, où la crue des eaux a fait en sorte qu'il y a des parties de route qui ont été emportées. Baie-Saint-Paul est comme brisé en deux. Donc, des gens qui se retrouvent isolés ce matin dans leur maison. Tout de suite, je vais aller retrouver notre collègue Philippe Rodrigue Comeau, qui est journaliste à Cogeco. Donc, il est à Baie-Saint-Paul. Philippe, ça a été quand même, il faut le dire, une nuit pas facile là, pour plusieurs familles là, qui se retrouvent isolées.
Ouais, ça a été assez éprouvant. Des parents qui m'ont raconté qu'ils passaient la nuit dernière loin de leurs enfants. Ça illustre assez bien la situation. Tu parlais de Baie-Saint-Paul qui était brisé, scindé en deux. Ça l'illustre assez bien à cause des deux ponts qui sont bloqués. Il y en a un qui est bloqué, il est détruit. La rivière a avalé une partie de la 138, donc impraticable possiblement pour un bon bout de temps. L'autre pont, au niveau sécurité, les ingénieurs n'étaient pas prêts à redonner l'accès encore ce matin, donc il est toujours bloqué. Ce qui fait en sorte qu'il y a des parents qui étaient partis, par exemple, travailler ou à l'inverse, des enfants qui étaient partis à l'école qui n'ont pas pu retourner de l'autre côté de la rive, la rivière, à la fin de la journée. À partir de l'état d'urgence, en début d'après-midi, toutes les voies étaient bloquées, de sorte que impossible de traverser d'un bord ou de l'autre, même pas par les rangs plus haut. Les parents ou les enfants, dans certains cas, se sont ramassés à la polyvalente, au refuge qui a été aménagé par la Croix-Rouge. Il y avait des lits de camp qui ont été quand même fortement occupés. Le cafétéria aussi qui a été occupé hier en soirée. Mais ça a été éprouvant, semble-t-il, pour des familles qui devaient se fier, heureusement, dans la plupart des cas, aux grands-parents pour garder leurs enfants pour la soirée, en espérant que ce soir, ils pourront souper à la maison ou à tout le moins dormir à la maison. Il n'y a rien de garanti. Hier, il y a le maire Michael Pilote qui a survolé la ville en hélicoptère, puis il expliquait de, c'est sûr et certain que c'est une inondation aux 0-100 ans. Ça fait pas de doute là-dessus. Les dégâts sont très importants. Et en plus que des ponts qui sont coupés, il y a des quartiers isolés, des quartiers résidentiels où on pouvait y aller que par une seule rue, une seule avenue. Mais cette avenue-là s'est effondrée à cause de la rivière qui passait en dessous. Alors les gens se retrouvent pris de l'autre côté. On utilise la machinerie quand c'est nécessaire pour faire traverser certaines personnes. Mais dans l'ensemble, il y en a qui ont passé la nuit comme insulaire là, le temps de nuit. Alors qu'on se pose encore beaucoup de questions à savoir est-ce qu'il y aura d'autres dégâts avec la pluie qui continue de tomber. C'est les questions que les gens se posent ce matin en regardant là, d'un regard assez anxieux le niveau de la rivière qui, heureusement, est en baisse et ça devrait se poursuivre selon le ministère de la Sécurité publique. C'est la bonne nouvelle dans tout ça ce matin.
OK, c'est un point important là parce que, bon, on sait qu'il y a eu de la pluie en quantité importante. On a vu la crue des eaux et tout ça. Mais ce que tu dis, c'est qu'au moins le niveau de la rivière, se stabilise ou même baisse un peu.
Oui, je l'ai constaté de mes propres yeux hier soir. La rivière du Gouffre frôlait le pont qui survit toujours aujourd'hui, là, celui qui mène aux éboulements de la route 362. Et il y avait au moins 2-3 mètres d'eau là, qui avait baissé de ce côté-là. Au niveau des autorités, on me dit que c'est encourageant. Là. Il semble pas y avoir une tendance à la hausse pour Charlevoix. Ça veut pas dire qu'ailleurs, par contre, ça montre pas. Mais dans Charlevoix, le pire semble être passé. Il y a quand même un mur qui a cédé hier. Résultat, 150 maisons inondées de plus. Il y a une centaine de personnes qui sont hébergées au refuge. La grosse problématique ici, c'est que les gens sont isolés à la maison. Il y a des pannes d'électricité, mais pas trop. Donc, les gens sont en mesure de survivre. Mais même si on annonce de la pluie, même si la neige continue de fondre dans les montagnes, on s'attend pas à ce que le niveau remonte aussi haut qu'il a été hier. Pour vous donner une idée, le camping qui a été englouti hier du Genévrier, un peu plus loin que le centre-ville de Baie-Saint-Paul, vous avez vu peut-être les images des roulottes qui passaient là sur la rivière. Je regardais des images d'archives. Là. Habituellement, tu as de l'eau en bas du genou quand tu es au centre de la rivière qui traverse dans le coin du camping. C'était pas ça hier. Là. Hier, là, c'était un torrent qui déferlait puis qui amenait toutes les roulottes et même certains cabanons là, dans son sillage. Bref, c'est des images qui ont marqué les gens. Puis j'ai parlé à des personnes qui ont un âge vénérable, là, qui en ont vu d'autres et qui me disaient que jamais ils ont vu des inondations aussi importantes dans leur coin de pays, même si on s'y attend parfois.
Parlons des deux pompiers disparus, toujours pas de nouvelles.
Non, malheureusement, toujours pas de nouveau à ce sujet. Un poste de commandement qui est établi depuis hier. Il y a des recherches terrestres, aériennes et nautiques. La garde côtière est mise à contribution. Il y a également un avion de l'armée canadienne qui a survolé la zone. Pas de nouveau, ils sont disparus depuis 14 heures. Je rappelle qu'ils venaient en aide à des citoyens qui étaient isolés par l'eau. Les pompiers sont allés les rejoindre, les pompiers volontaires. Malheureusement, ils ont été emportés par le torrent. On n'a aucun indice. Peut-être se sont-ils réfugiés en quelque part ou peut-être que le pire s'est produit. Aucune nouvelle à ce sujet pour le moment. Peut-être que la mise au point avec le ministre Bonnardel de la Sécurité publique cet avant-midi nous permettra d'en savoir plus.
Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Philippe Rodrigue Comeau, qui est à Baie-Saint-Paul. Maintenant, plus près de nous, Philippe Bonneville, lui, est à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. C'est dans Lanaudière. Et tout le secteur, là, Saint-Côme, Lanaudière, puis on peut penser Rawdon également, touché. Philippe, d'abord, il faut dire là que dans le secteur de Sainte-Émilie, il y a un barrage qui a cédé hier. Il y a des gens, des maisons, des chalets là qui sont désormais enclavés, justement à cause de la crue des eaux.
Oui, absolument. La situation qui a complètement changé en quelques heures hier ici à Sainte-Émilie-d'Énergie. Moi, je suis ici depuis le milieu de la nuit. J'ai pu aller dans plusieurs secteurs durement touchés avec le maire de l'endroit. Et juste pour cette petite municipalité, il y a actuellement, Paul, 338 maisons ou chalets, imagine, qui sont isolés, enclavés à raison de la hausse du niveau des rivières ici. Il y a eu au moins 2 glissements de terrain de rapportés jusqu'à présent. Il y a certains secteurs où on surveille la situation de près parce qu'on craint justement qu'il y ait des crevasses ou des glissements de terrain qui se créent. Et il y a 21 routes, oui, 21 routes ou chemins qui sont impraticables en raison justement de la hausse du niveau des rivières. Et à tout ça, faut ajouter ce dont tu as parlé tantôt, il y a ce barrage qui a cédé hier. Moi, je me suis rendu sur place tantôt. C'est un barrage privé de quelques dizaines de pieds. Donc, c'est pas un immense barrage, mais la structure en béton, elle a même résisté. Sauf que la pression de l'eau, elle était tellement forte à un certain moment hier dans la journée que toute la structure en terre d'un côté du barrage, donc on parle d'une section de terre de plusieurs dizaines de mètres, et bien tout ça a cédé, ce qui fait que le barrage ne réussissait plus à contenir l'eau du bassin. Vous pouvez imaginer ce que ça a créé. Ça a créé beaucoup de dommages, mais heureusement, il n'y a pas eu de maisons qui ont été emportées. On a craint pendant un certain temps qu'il y ait des maisons qui soient emportées. On a même lancé une sorte d'alerte en disant aux gens dans le secteur là, évacuer le plus rapidement possible parce que il y avait des torrents d'eau qui sortaient, si on veut, de ce bassin qui se rendait dans une rivière. Donc, je te parlais tantôt de toutes ces maisons qui sont isolées, enclavées ici. Eh bien, il y a eu plusieurs opérations de sauvetage au cours des dernières heures. Je vais te laisser entendre le maire de Sainte-Émilie-de-l'Énergie, Martin Héroux, à qui j'ai pu parler ici en fin de nuit.
Le service de sauvetage en eau vive des pompiers Saint-Félix sont venus puis ont évacué là, au moins une vingtaine de personnes qui étaient carrément isolées. Là. Ils étaient sur leur balcon puis il y avait de l'eau partout. Fait que les pompiers ont comme un genre de zodiac qui ont pris puis sont allés sauver les gens de cette façon-là. Des crues comme ça, là, ça fait au moins 50 ans qu'on en a eu, si pas plus. Donc, on est habitué à chaque printemps, il y a la crue, il y a souvent des embarques là, au sud du village, également secteur le chemin Sainte-Marie 347, là, limite Saint-Damien-Saint-Émilie. Les gens sont habitués, l'eau monte à chaque printemps, mais là c'est exceptionnel, ça bat des records, mais des records qu'on voudrait pas battre.
Ouais, les plus graves inondations ici en plus d'un demi-siècle, Paul. La situation est aussi très problématique un peu plus loin d'ici, là, à Saint-Zénon, à Saint-Michel-des-Saints. Ce sont deux villes qui sont d'ailleurs complètement inaccessibles présentement parce que la route 131, elle est fermée à la circulation en raison des inondations. On ignore combien de temps ça va prendre pour effectuer les réparations nécessaires. Mais là aussi, on parle de centaines et voire même des milliers de personnes qui sont en quelque sorte isolés. Il y a même Air Médic qui va fournir les soins médicaux en cas d'urgence pour le secteur de Saint-Zénon, étant donné qu'il n'y a pas d'ambulance, par exemple, qui peut se rendre là-bas présentement. La bonne nouvelle, quand même, dans toute cette circonstance-là, c'est que les niveaux d'eau et les débits ont quand même diminué par rapport à hier. On prévoit beaucoup de pluie encore ici aujourd'hui, donc évidemment, ça provoque beaucoup d'inquiétude.
Mais ça veut dire aussi, Philippe, des travaux quand même importants à venir, là. D'abord pour les propriétaires de maisons et pour les infrastructures.
Oui, parce qu'on parle d'une petite municipalité ici et il y a 21 routes ou chemins qui sont endommagés. Et dans certains cas, on ne connaît pas l'ampleur des dommages parce que les routes sont encore inondées. Donc, on sait que ça s'est affaissé, mais à quel niveau? Et des petites municipalités comme ici à Saint-Émilie-d'Énergie, ben on n'a pas les ressources humaines et les ressources matérielles pour tout réparer en une journée. Donc, ça va prendre quand même probablement assez de temps avant qu'on puisse réparer l'ensemble des infrastructures qui ont été donc brisées, endommagées. C'est-à-dire aussi qu'il y a un centre de commandement qui a été mis en place à l'église de la ville. Hier, en fin de journée, il y avait quand même passablement de citoyens, ceux qu'on réussissait à aller chercher chez eux là, avec les obiacs. On les amenait là-bas. Dans certains cas, il y a des membres de leur famille qui les ont hébergés pour la nuit. Dans d'autres cas, on les a envoyés dans des auberges ou des petits hôtels du secteur pour que au moins ces gens-là puissent passer une bonne nuit. Mais on voit là que ce matin, avec le soleil qui s'est levé au cours des dernières heures, on peut vraiment constater l'ampleur des dommages. Je suis tout près, moi, du barrage en question. Et le maire me disait, ça va être très long, très coûteux, très compliqué de réparer ce barrage-là. Ça aussi, ça va prendre probablement des semaines, voire des mois avant qu'on puisse rétablir la situation.
Merci beaucoup, Philippe Bonneville, en direct ce matin de Saint-Émilie de l'Énergie dans la Naudière. On va parler météo maintenant, comprendre ce qui s'est passé hier, puis voir un peu ce qui s'en vient. André Quentin est météorologue chez Environnement Canada. Monsieur Quentin, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Peut-être nous faire un bilan, là, surtout pour les secteurs touchés. Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Oui, ben, en fait, on a eu une intense dépression qui est remontée de la côte est américaine vers Montréal, puis vers l'Abitibi. Et c'est juste à l'est de ce système-là qu'on avait des précipitations intenses. Donc, on a reçu pour les secteurs touchés entre 50 et 60, peut-être même 65 millimètres là, par endroit. Mais tout ça s'ajoutait à la fonte, parce que dans le haut des bassins des rivières, la fonte n'est pas terminée. Donc, la fonte ne s'ajoutait à ces précipitations abondantes qui ont tombé en moins de 24 heures. Donc, c'est vraiment l'intensité des précipitations qui a fait gonfler les rivières, ajoutée à la fonte qui est encore très active, et le fait que les rivières au printemps sont déjà très élevées. Donc, tout ça a contribué aux dommages causés hier. Et malheureusement, ce qu'on prévoit au cours des prochaines heures, c'est encore de la pluie, des averses et même des risques d'orage. Donc, des précipitations peut-être plus localisées, mais qui pourraient quand même être abondantes par endroits. On parle de 10 à 15 millimètres aujourd'hui, peut-être une accalmie en fin de soirée la nuit prochaine et reprise des précipitations demain, avec encore un 5 à 10 millimètres possible là, par endroit. Donc, tout ça là, va venir s'ajouter et ralentir la baisse des niveaux d'eau au niveau des rivières, malheureusement.
Bon, mais parlons des secteurs qui sont les plus touchés jusqu'à maintenant. Là. Je pense à la Naudière, je pense à Charlevoix, l'Outaouais également. Je sais aussi que sur la Côte-Nord, il y a certains cas, Laurentides. Est-ce que vous prévoyez dans ces secteurs-là encore plus de pluie? Montréal, 5, 10, 15, pas pire, mais là-bas, ça pourrait être plus que ça?
Non, c'est contraire. En fait, même Charlevoix, c'est moins que de précipitation. La dépression qui était sur l'Abitibi redescend sur l'Ontario et va glisser sur la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est surtout les secteurs plus au sud-ouest, donc Laurentides, la Naudière, un peu moins l'Outaouais. Du côté de Charlevoix, il va y avoir des précipitations, mais le refroidissement des températures va faire que pendant la nuit prochaine, c'est possiblement sous forme de neige, au moins en terrain montagneux, dans les secteurs plus élevés, au nord de Baie-Saint-Paul, vers Saint-Urbain, justement, et à l'entrée de la réserve faunique des Laurentides, là où la rivière prend sa source. Ça pourrait tomber sous forme de neige et même s'accumuler là, dans les secteurs plus élevés. Donc, ça va ralentir le ruissellement. Ça le déplace, si on veut, mais ça, quand même, l'effet sur la rivière est plus graduel. La hausse devrait être moins prononcée que ce qu'on a connu au cours des derniers jours, quand même.
Merci, M. Quentin. Bonne journée.
Plaisir.
Au revoir. André Quentin est météorologue chez Environnement Canada. Donc, encore, malheureusement, j'allais dire, de la pluie à venir. Eh bien, depuis les derniers jours, tout semblait assez sous contrôle. Évidemment, il y avait des inquiétudes quant au niveau des rivières, des lacs également. Et puis hier, comme l'a décrit M. Quentin, soudainement, la pluie en grosse quantité s'est abattue dans certains coins du Québec, ce qui fait qu'on se retrouve ce matin avec plusieurs municipalités qui ont décrété l'état d'urgence. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est avec nous. M. Bonnardel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, si vous aviez à dire à nos auditeurs et auditrices ce matin, là, l'espèce de portrait du Québec, les endroits où c'est plus problématique qu'ailleurs.
Ben, où c'est plus problématique, vous en doutez un peu, la région de Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Laurentides-la-Naudière, si on fait un constat assez rapide, présentement, dans le coin de Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, on a 150 résidences inondées, et cela évolue là, de minute en minute. On parle de 826 résidences isolées, à peu près 90 personnes qui sont évacuées. On a la fermeture de la route 362 d'ouest en est. On a l'Aquarouge nécessairement qui est arrivé hier soir pour supporter la ville. On a 252 lits qui ont été disponibles pour l'ensemble de la communauté de Saint-Urbain et de Baie-Saint-Paul. On a trois ponts fermés, pont Leclerc sur la route 362, pont de la route 138, pont de la rivière Lamar. On a trois centres d'hébergement, l'aréna de Baie-Saint-Paul et le centre éducatif Saint-Aubin, le camp Le Manoir. Donc ce matin, s'il y a encore des gens là, qui se sentent un peu mal pris, qui ont besoin de se réchauffer, de manger, parler à des gens, rendez-vous à ces centres, on va vous accueillir pour prendre soin de vous. Faut pas oublier Laurentides-la-Naudière, on a encore plusieurs centaines, sinon milliers de personnes qui sont privées d'électricité du côté de Saint-Adolphe. Il y a beaucoup, beaucoup de chemins, on parle de 47 qui ont des ponceaux endommagés. Le lac Long qui déborde. 30 résidences isolées du côté de Gore. Problème avec le barrage du domaine du lac France du côté de Saint-Côme. Le barrage qui a cédé sur la rivière Creek à David à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Puis globalement, on parle au Québec là d'à peu près résidences touchées, inondées, 340 résidences. On parle de près de 1500 résidences complètement isolées. À peu près 350 personnes qui sont évacuées.
OK. Les gens chez vous qui font les prévisions, qui regardent ça aller, est-ce qu'ils vous disent, Monsieur le ministre, le pire est passé ou encore dans certains coins, il faut s'attendre à ce que l'eau fasse malheureusement plus de dégâts?
Ben, on avait prévu hier soir une baisse, je ne sais pas si vous avez vu des images là, de la rivière du Gouffre. On avait prévu une baisse durant la nuit du niveau de la rivière du Gouffre. C'est ce qui est arrivé. Malheureusement, comme les modèles météo le prévoient, là, dans les prochaines heures, on prévoit en 10, 30, 35 mm de pluie là, pour les prochaines heures, sinon 48 heures. Donc, les niveaux pourraient encore augmenter. Alors, on reste aux aguets. Et, je le dis aux gens, là, prenez pas de risques. Si vous êtes pris chez vous, appelez le 911. On va aller vous chercher. Sinon, sortez et rendez-vous à la famille. Rendez-vous dans les centres où on va prendre soin de vos enfants, de vous-même, de vous faire manger, de vous faire dormir si besoin est. Parce que la situation pourrait être critique encore pour 48 heures.
OK. Je sais qu'il est tôt, là, mais il faut quand même penser à tous ces travaux d'infrastructure, là. C'est un méchant casse-tête, là. Parce que quand vous avez des tronçons de route qui sont emportés, qui ont glissé, des barrages qui ont cédé, c'est des travaux sur l'ensemble du territoire, là. Ça veut dire que on en a pour des mois, pour ne pas dire autre chose, là, à refaire, disons, les liens, puis reconstruire ce qui a été détruit.
Ben, vous avez raison, ce ne sera pas banal comme travail dans les prochaines heures et dès que les ingénieurs vont nous le permettre, dès que la pluie va cesser, réparer les ponceaux, mais surtout les routes qui sont endommagées pour permettre de reconnecter l'Est et l'Ouest qui ne permet pas aux gens là, de circuler convenablement. Il y a des routes qui sont endommagées, donc autant du côté de l'environnement, du ministère des Transports et de nous-mêmes, on va mettre tous les effectifs à profit pour être capable de sécuriser les routes et de permettre aux gens de recommencer à circuler normalement, que les écoles puissent ouvrir et de retrouver une certaine vie normale. Mais pour le moment, ça ne sera pas simple, mais on va mettre tous les effectifs en place dès qu'on peut là, pour assurer les gens et sécuriser le réseau. Là.
OK. M. Bonnardel, vous avez été ministre des Transports, vous êtes ministre de la Sécurité publique. Vous avez, comme député aussi, j'imagine, entendu les récriminations des élus qui disent « on peut plus gérer ça tout seul ». Il va falloir qu'on ait un fonds particulier pour les changements climatiques, pour les événements météo extrêmes. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ben, vous avez tout à fait raison. Puis quand on regarde les dernières tempêtes de 2017-2019, on a à apprendre de ça. Tempête Fiona qui a frappé les îles de la Madeleine. Puis le premier ministre, la dernière campagne, a annoncé un plan pour contrer l'érosion des berges, pour prévenir au lieu de guérir de 100 millions de dollars. J'étais avec lui quand on a annoncé une première partie de 70 millions, voilà quelques mois déjà. Puis parce que les municipalités, petites et grandes, et surtout petites, le long des côtes partout au Québec, ne peuvent pas supporter des sommes aussi importantes pour protéger leurs berges et protéger les résidents qui sont là, qui y habitent depuis des années, sinon des décennies. Donc, on est conscient de la situation. Et ça évolue vite, là. Ça évolue vite quand on parle de conception pour les ingénieurs, pour protéger nos routes, d'avoir de meilleurs conçus et tout ça. On regarde la crue des eaux des dernières heures. C'était presque une tempête parfaite avec encore un couvert de neige important dans la réserve faunique des Laurentides, un coup d'eau de 40-50 mm qui ont frappé Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul. Puis on voit le constat. Donc, on fait tout pour se préparer avec les ingénieurs, mais il reste quand même que c'est des coups là, qu'on voit une fois à chaque 50 ans ou à chaque 25 ans, malheureusement.
J'allais vous dire, à chaque année, il y a comme un événement qu'on voit juste à chaque 50 ou 100 ans, mais il y en a un par année.
Non, c'est certain que le constat, on peut pas se cacher. Là, les changements climatiques frappent partout, nous frappent, nous, au Québec. Dans ces conditions, on doit mettre les sommes, on le fait déjà. S'il faut en mettre encore plus, on le fera. Je sais que le premier ministre est plus que sensible là-dessus. Puis on doit répondre aux besoins des municipalités et des résidents qui voient leur résidence plus souvent qu'autrement, là, pas abandonnée, mais où l'érosion ne leur permet pas de continuer de vivre là, malheureusement.
OK. Merci beaucoup, M. Bonnardel. Bonne journée.
Merci à vous. Bye.
François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique qui sera d'ailleurs à Baie-Saint-Paul aujourd'hui.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, le ministre Jean Boulay va nous arriver l'automne prochain avec une nouvelle proposition, un projet de loi. Bon, officiellement, pour moderniser l'industrie de la construction, c'est pas tout à fait clair, mais on croit comprendre qu'il souhaite qu'il y ait moins de chasse gardée sur les chantiers, que des travailleurs puissent effectuer des tâches plus nombreuses. Bref, un peu dépoussiérer toute l'industrie. Je peux vous dire que depuis hier, les commentaires sont nombreux, ça grogne pas mal. Le ministre du Travail est avec nous. Monsieur Boulay, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcand.
Monsieur Boulay, je veux bien comprendre ce que vous souhaitez faire, là. Je comprends que vous allez consulter, vous allez dialoguer avec les syndicats, les patrons et tout ça. Mais c'est quoi l'objectif ultime?
L'objectif ultime, c'est d'accroître l'offre de main-d'œuvre et d'augmenter la productivité. Vous le savez, on a des besoins énormes dans tous les secteurs, les écoles, les hôpitaux, les routes, les maisons, les infrastructures à rénover puis à construire. Puis on n'a pas une capacité suffisante au Québec. Fait qu'il faut, vous le dites, dépoussiérer, décomplexifier le secteur de la construction. Puis ça passe par une meilleure polyvalence des métiers, un accès accru, notamment pour les personnes immigrantes, les femmes, les personnes issues des communautés autochtones, puis intégrer beaucoup plus de technologies, puis ne pas oublier la formation des travailleurs et travailleuses.
OK, mais prenons un exemple concret, là. Moi, je suis un entrepreneur, puis normalement, j'ai besoin de 6 corps de métiers différents. Est-ce que ça veut dire concrètement que je pourrais me contenter de 4 travailleurs qui pourraient faire les jobs qui sont faits par 6 actuellement?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Puis, évidemment, je ne ferai pas ça en vase clos. Hein. Depuis quelques mois, je travaille beaucoup en collaboration avec les associations patronales puis les syndicats. Puis, on va travailler avec la base. Les sous-comités professionnels de la CCQ vont nous aider à déterminer dans chaque métier s'il y a des activités qui peuvent être partagées avec d'autres métiers. Rappelez-vous les camions flèches là qui étaient réservés aux grutiers quand on avait besoin d'un grutier pour une courte période de temps. Puis, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, ça engendrait des délais, des coûts, des pertes de productivité. Fait que ça en fait partie. On va identifier des activités qui peuvent être partagées, puis ça va être au grand bénéfice de notre capacité de construire au Québec.
OK, mais quand vous dites on va déterminer, là je veux juste comprendre, ce sera le résultat d'une négociation entre les syndicats et les employeurs, c'est vous qui allez le décréter, c'est la Commission de la construction du Québec, qui va dire à quelqu'un, tel job, elle peut être faite par cette personne-là, puis cette personne-là peut aussi faire un autre type de job?
C'est une excellente question. Ça sera pas négocié, mais ce sera discuté. Moi, je suis en mode consultation, puis les sous-comités professionnels, là, il y a des gens de métier. Fait qu'il y a des gens de métier, tant du côté patronal que syndical, qui vont discuter ensemble, qui vont me faire des propositions. T'sais, si on en vient à la conclusion que le charpentier menuisier, au-delà de poser du bois franc, il peut poser du tapis ou de la céramique, ou qu'un métier X pourrait faire. Évidemment, c'est toujours sous réserve de formation. On va s'assurer que les travailleurs et travailleuses aient les qualifications pour le faire. Mais après ça, ça va monter au comité de formation professionnelle qui est sous l'empire de la Commission de la construction du Québec. On va travailler avec la CCQ, mon ministère, qui aura des changements à des règlements, puis aura des changements à la loi sur les la R20, là, qu'on appelle, sur les relations de travail dans l'industrie de la construction.
OK. Je vous envoie quelques commentaires que j'ai reçus, lus ou entendus depuis hier. Par exemple, du côté syndical, on dit que vous êtes en train de sacrifier la qualité, la compétence.
Non, on veut surtout pas sacrifier la qualité, la compétence. C'est la raison pour laquelle, avec notre comité de formation professionnelle, on va donner des activités de perfectionnement qui seront gratuites, qui vont permettre aux personnes de diversifier leur temps. Il faut pas oublier que ce n'est pas que bénéfique pour la productivité, puis les coûts, puis les délais. Ça va donner une meilleure employabilité aux travailleurs et travailleuses, puis ça va enrichir, ça va diversifier leurs tâches, puis souvent, c'est un atout pour ces personnes-là, ça améliore leur qualité de vie au travail.
Les patrons me disent, pas tous, mais certains, les syndicats ne seront pas capables de vendre ça à leurs membres. Quel est l'avantage des membres d'accepter ça? Ils ont déjà de la job qui leur sort par les oreilles.
Bon, ça prend un meilleur arrimage, puis tout le monde en est conscient. Quand j'ai commencé mes rencontres avec les patrons puis les syndicats, on s'est entendu sur les objectifs. Faut en faire plus, faut mieux travailler. On a deux défis majeurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre puis l'amélioration de notre productivité. Là, on discute des moyens. Bon, puis la polyvalence, c'est un des moyens. L'accès au secteur de la construction, l'innovation technologique, parce qu'on fait beaucoup, là. Il y a des drones, des robots quadrupèdes, il y a des robots collaboratifs dans le secteur de la construction, et on fait beaucoup de formations, et les entrepreneurs sont dans le processus de consultation. Encore une fois, le dialogue va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça fera pas l'unanimité, M. Arcan, j'en suis convaincu, mais on va sûrement faire des consensus pour améliorer nos pratiques et nos façons de faire.
OK. J'ai entendu un autre commentaire, ce sera le dernier pour ce matin. Là, je sais que vous avez une réunion, mais ce que j'entends, c'est le ministre discute, consulte parce qu'il est pas capable de trancher ou il a peur de trancher. Il veut que ça soit comme un deal entre les syndicats et les employeurs.
Non. Je pense qu'il faut travailler sur nos intérêts communs. Puis j'ai réalisé en rencontrant tant les associations patronales que syndicales qu'il y a effectivement des objectifs qui convergent. Je travaille là-dessus, j'accrois les consensus, puis après ça, il y aura des arbitrages à faire puis des décisions. On l'a fait à l'époque pour la modernisation du régime de santé et sécurité. Il y a eu des consensus. Là où il n'y a pas de consensus, on va prendre les décisions pour le bénéfice des Québécois, Québécoises et du secteur tellement névralgique de la construction.
Mais est-ce que ça veut dire, M. Boulay, que ça pourrait être la Commission de la construction du Québec qui est le mot final?
C'est nous qui aurons le mot final, mais toujours en collaboration avec la Commission de la construction. Mon intelligence en matière de construction, elle est beaucoup dans cette commission-là, et je travaille beaucoup avec eux autres, avec Mme Lemieux, le conseil d'administration, puis toutes les équipes qui en font partie.
M. Boulay, merci. Bonne journée.
Bonne journée, M. Arcan. À bientôt.
Jean Boulay, le ministre du Travail. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du vent sur les chantiers, là. Puis strictement depuis hier, puis on n'a pas de cas précis, mais on peut imaginer. Puis l'exemple que je donne, c'est vraiment celui d'un entrepreneur qui dit à 4 ou 5 employés qui auront des formations multiples, je vais être capable de rouler mon chantier. Tu vas mettre le tapis, puis après ça, tu mettras la céramique, puis après ça, tu feras autre chose. Plutôt que de segmenter tout le temps, puis de courir après la main-d'œuvre. Est-ce que ça va coûter moins cher? Est-ce que la compétence va être là? Puis jusqu'à quel point il va y avoir de la réticence? Je peux vous dire, là, je regarde les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui nous écoutent tous les matins en train de travailler, puis qu'il y en a qui m'envoient des messages tantôt en disant « Penses-tu qu'on est assez fou pour accepter ça? » Alors, projet de loi à l'automne, puis j'imagine des consultations d'ici là.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien, on va parler de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est une période de l'année où il y a des gens qui avaient remisé leur véhicule, qui veulent le récupérer, donc il faut réactiver le dossier. Et hier, je comprends que c'était le 1er mai, mais j'ai reçu je ne sais plus combien de courriels de gens qui ont vu leurs transactions être retardées. Puis pas un peu, dans certains cas, même le système faisant en sorte qu'ils étaient comme débranchés. Des captures d'écran où on vous dit là que vous êtes en attente pour accéder au service en ligne environ plus d'une heure avant d'accéder comme tel. Et on connaît tous les problèmes que le nouveau système de la Société d'assurance automobile du Québec a eu. On veut connaître l'état de santé du patient ce matin. Dave Leclerc est avec nous, vice-président aux stratégies de marketing de la Société d'assurance auto. Monsieur Leclerc, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, quels sont les problèmes encore réels et persistants dans la nouvelle application puis dans le nouveau système?
Ben d'abord, je vous dirais que l'ensemble des services, tous les services fonctionnent dans la nouvelle application, dans le nouveau système. Évidemment, on est oui sur le web, mais on est derrière les comptoirs, on est avec des partenaires, donc l'ensemble de nos services fonctionne. Je veux revenir sur ce qui s'est passé hier, parce que je pense que vous avez entièrement raison. Hier, les clients ont connu des ralentissements, ont été éjectés de la file d'attente, par exemple. On a eu énormément de commentaires de notre côté également. Donc, c'est une réalité. Hier, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un de nos serveurs de cybersécurité qui avait un paramètre qui ne laissait pas passer suffisamment de clients. Pourquoi qu'on l'a su hier? Parce qu'hier, évidemment, c'est la journée à peu près la plus achalandée à la Société de l'assurance automobile du Québec en raison du déremisage. Donc, hier, vers la fin de la journée, on a reparamétré le serveur qui était, je dirais, en problème en fonction, évidemment, du volume, si bien qu'hier soir, c'est revenu à la normale et ce matin, ça roule. Donc, le déremisage a repris son cours. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, en 2022, c'était un dimanche. On a fait 30 000 déremisages au total à la société. Hier, finalement, jusqu'à ce matin, on en a fait 25 000.
OK. Moi, j'aime bien ça, les chiffres, là, puis les statistiques, puis tout ça. Je veux juste que ça soit clair, là. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que votre système hier, en raison d'une erreur de paramétrage, a fait en sorte que les gens étaient éjectés ou qu'ils en passaient passer. Ça s'est passé hier, là. Ça veut dire... OK.
Ouais.
Quelqu'un qui, ce matin, veut retourner sur l'application, sur votre site, est-ce qu'il va se retrouver en attente pour 40 minutes, une heure et demie, ou s'il y a un accès presque automatique qui lui est garanti?
Ça va dépendre évidemment de l'achalandage. Je m'explique, sans rentrer trop dans la technicalité, les files d'attente sont là pour protéger le système. Vous le vivez ailleurs aussi, par exemple à la CEPAC lors des réservations de parcs ou de camping. Vous le vivez pour l'achat de billets en ligne pour un spectacle. Il y a des files d'attente. Donc, c'est quelque chose qui est partout dans les systèmes où il y a un achalandage concentré lors d'un moment X. Donc, c'est le même cas pour la Société de l'assurance automobile.
Oui, mais Monsieur Leclerc, ce que les gens comprennent pas trop, c'est que c'est pas un événement occasionnel. C'est pas un événement là, qui arrive une fois de temps tous les ans, puis il y aura toujours dans l'année des moments à la Société d'assurance auto où il y aura une abondance de clients qui malheureusement vont se présenter. Ça veut dire que votre système n'est pas prêt à recevoir autant de monde.
En fait, ça dépend de la pointe. Parfois, la file d'attente sera activée, d'autres fois, ne le sera pas. Hier, ce qu'on a vécu, évidemment, c'est un fort achalandage et il y avait un problème parce que les gens étaient éjectés de la file d'attente. Donc, ce matin, ça roulait. Hier soir, ça roulait bien. Ce matin, est-ce qu'il va y avoir des files d'attente? Il pourrait y en avoir, mais je vous rassure, si vous attendez 10 minutes en ligne, vous allez être servi par la suite. Donc, les problèmes ont été résolus hier. Le système fonctionne ce matin.
À moins qu'on en trouve un autre problème.
Écoutez, on n'est pas à l'abri. C'est pas la première fois qu'on se parle, M. Arcand, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé. C'est un nouveau système. Beaucoup de données, d'échanges, de systèmes. On est passé de 300 systèmes à un système. Mais évidemment, on n'est pas à l'abri de d'autres problématiques.
Okay.
Mais je vous rassure, le système fonctionne. Écoutez, depuis le 20 février, on est à 1,9 million de clients servis avec la nouvelle plateforme.
OK, mais ma vraie question, là, à quel moment votre système, votre nouvelle plateforme va vraiment fonctionner? Là, parce qu'il y a des petits bugs là, petits bugs là. La ministre a prolongé, par exemple, pour des certificats. Oui. Puis bon, ma question, c'est votre système qui devait fonctionner de façon fantastique dans les jours qui suivaient son implantation. La nouvelle date, là, c'est quoi?
En fait, c'est pas une question de date, c'est une question de fonctionnalité. La SAC, présentement, offre des services tous les services fonctionnent avec le nouveau système. Pour ce qui est de la date, si on parle du mois d'avril, hein, on s'en était parlé au mois d'avril, ce qu'on parlait évidemment, c'était l'inventaire du 14 jours de fermeture. Ce qu'on voulait régler, c'était tous ceux qui n'avaient pas reçu les services avant la fin avril. Ce qu'on voulait, c'était de réduire les files d'attente dans les centres de services, qui est le cas présentement. Oui, il y a encore un peu de files d'attente, mais généralement, ça roule bien. Les gens attendent moins, on parle...
OK, mais ma question, c'est pas ça, M. Leclerc. Ma question, c'est à quel moment ça va être un système fonctionnel et normal?
Ben moi, je pense que présentement, c'est un système qui fonctionne, qui connaît certaines anomalies. On les identifie et on les résout. Ça, je peux vous le garantir.
OK, mais quand allez-vous avoir terminé de résoudre les anomalies? En juin? En juillet? En septembre?
Écoutez, pour ce qui est de nos priorités d'anomalie, ça se règle de jour en jour. Évidemment, si on en découvre d'autres, ça nous repousse un peu, mais on parle de questions de semaines. Donc, si on se donne, par exemple, d'ici début juillet, parce qu'évidemment, il y a deux choses là-dedans. Là, vous me parlez des problèmes peut-être informatiques.
Ben, je vous donne un autre exemple, prise de rendez-vous. Moi, j'ai plein de gens qui me disent « il n'y a pas de place de disponible », puis là, on se fait répondre « ben venez voir de temps en temps », ils s'en ajoutent.
Ça, effectivement. Et ça, c'est pas en lien avec le système informatique. C'est en lien avec la capacité d'accueillir des clients. Puis je vous donne encore une fois des chiffres, et je veux pas vous inonder des chiffres, vous le savez, mais 50 % de nos succursales offrent présentement des rendez-vous en moins de 10 jours. OK? Donc, dans la grande région de Montréal, parfois, c'est un peu plus long. Mais je vais vous donner un autre exemple très concret. Si on parle d'examens théoriques et pratiques pour les véhicules de promenade, moto, lourd, il y a de l'espace dans nos grilles de rendez-vous pour mai, juin, juillet, partout, incluant la grande région de Montréal. Donc, il y a certains services où il y a moins de disponibilité, mais par exemple, dans les examens de conduite, il y a de l'espace encore partout au Québec, autant en mai, en juin qu'en juillet.
Ouais. J'ai comme tendance à me méfier parfois des chiffres parce que, je peux vous dire, moi, que 50% du système marche bien, mais c'est quoi l'autre 50%? Bon. Parce que, moi, j'ai des gens qui me disent, ils sont pas capables d'avoir de rendez-vous avant le mois de fin juin, début juillet. Bon. C'est ce qu'ils me disent.
Dans certains services, ils ont raison.
Donc, ils ont raison?
Bien, dans certains services, parce qu'évidemment, on offre une panoplie de services, vous le savez. Mais par exemple, si quelqu'un veut venir pour une immatriculation, c'est pas pareil comme quelqu'un qui va venir vouloir prendre une prise de photo. Donc, il peut y avoir plus d'espace à un endroit, il peut y avoir plus d'espace dans une région. Et comme je vous disais, pour les examens de conduite, c'est un bel exemple, il y a de l'espace partout. Donc, ça dépend. Encore une fois, je vais me répéter, puis vous le savez, M. Arcan, mais je vous le dis, on réinjecte des rendez-vous chaque semaine. Donc, oui, je peux comprendre que le client trouve ça plate, parce qu'il dit, bon, j'ai pas de rendez-vous immédiatement, mais je les invite fortement à revérifier la disponibilité de rendez-vous. Oui, il y a des rendez-vous qui se dégagent chaque semaine.
OK. Une autre question importante. Avez-vous encore des cas de gens dont le prélèvement était fait, le paiement était fait, et que c'est pas enregistré?
Bon, ça, on en a plus. En tout cas, il est connu, là, on n'en a plus. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, au début, lorsqu'on s'est parlé, on savait qu'il y avait certaines personnes qui avaient peut-être payé et qui avaient même écopé d'une infraction de la part des policiers pour des documents invalides. Mmh. On a le chiffre aujourd'hui, on parle de 27 contestations totales. Et évidemment, ces 27 cas-là vont être remboursés parce que ça a été prouvé que c'est en raison du système. Maintenant, il n'y en a plus de ces cas-là.
OK. Mais ça, les 27, ce sont ceux qui ont eu des contraventions?
Oui.
OK, ce ne sont pas ceux nécessairement qui ont eu des erreurs dans le dossier. Il y en a eu plus que ça.
Les erreurs dans le dossier sont en train de se corriger s'il y en a encore. À notre connaissance, il n'y en a plus présentement. Comme les avis d'immatriculation, les renouvellements d'avis d'immatriculation, les avis de renouvellement de permis de conduire sont en marche, ça roule. On a fait des contrôles qualité. Oui, on a constaté certains petits messages d'erreur, etc., où on est venu corriger. C'est pour ça qu'il y a eu certains retards dans les avis d'immatriculation, par exemple, d'avril. Mais on a fait une assurance qualité pour s'assurer que les nouveaux systèmes étaient capables de produire une facture exacte pour pas que le client ait justement des frais supplémentaires à payer ou moindre à payer.
OK. Les gens qui passent directement par leur institution financière pour faire le paiement, par exemple, le permis de conduire et l'immatriculation, est-ce que ça fonctionne? Avez-vous des problèmes de ce côté-là? Il n'y a pas de problème?
Pas à notre connaissance. Je sais qu'il y a eu quelques enjeux avec une certaine banque, que je ne veux pas nommer, mais c'était corrigé.
Pourquoi vous ne voulez pas nommer la banque?
Je pense que c'était RBC, je vois de mémoire. Ah, okay. Je pense que c'était RBC.
OK. L'autre chose.
Et c'était de notre côté, là, je vous rassure, c'était pas la banque qui avait un enjeu.
C'était du côté de la société d'assurance auto.
Oui, il y avait un code qui rentrait pas, mais finalement, c'était corrigé dans la même journée, je pense.
Ça prend pas grand-chose faire dérailler. Tantôt, c'était un paramètre, là, c'est un code, mais.
Oui, On est dans l'univers informatique.
Oui, oui.
Vous savez, je ne suis pas un spécialiste non plus.
Monsieur Leclerc.
Et on travaille très fort.
J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec la ministre qui n'était pas très, très contente de la gestion. Le président a été tassé. Vous êtes le vice-président. Avez-vous eu peur à un moment donné de perdre votre job dans tout ça?
Comprendrez que moi, je commenterai pas ce genre.
Non, mais vous avez entendu les mêmes choses que moi. Le vent soufflait quand même.
Le vent soufflait, vous avez raison. Aujourd'hui, on est au crédit d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée où on va répondre aux questions des parlementaires. On est prêt à y répondre. Moi, je pense que ce qu'on a fait, en tout cas moi comme vice-président, comme mes collègues vice-présidents, ce qu'on a fait, c'est de travailler d'arrache-pied pour régler la situation et répondre de façon adéquate à nos clients pour éviter le maximum d'impact de leur côté.
Alors, vous allez avoir une grosse journée au crédit, ça c'est sûr.
Probablement.
Oui. Monsieur Leclerc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Dave Leclerc est le vice-président aux stratégies de marketing à la sécurité routière de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, on va suivre ça. Mais vous n'avez pas rêvé hier. Puis, je me demandais pourquoi. J'en ai à peu près tous les jours. Mais hier, c'est comme pouf, avec des captures d'écran. Alors là, on comprend. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, vous êtes capable d'avoir des rendez-vous. Vous êtes capable de faire des transactions sans attendre trop longtemps.
L'essentiel de Paul Arcan.
Parlons maintenant de troubles alimentaires et on sait qu'ils sont nombreux, que ce soit des gens qui souffrent d'anorexie, de boulimie. Il y en a dans tous les groupes d'âge. On va vous raconter ce matin l'histoire de Chloé qui n'avait que 7 ans. 7 ans, c'est assez incroyable, quand elle a commencé à avoir des problèmes alimentaires. Magali, sa mère, est avec nous ce matin. Magali, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcan.
D'abord, parlez-moi un peu de Chloé. À quel moment vous avez remarqué qu'elle avait des problèmes alimentaires?
Mais en fait, ces problèmes alimentaires sont dus principalement, en fait, à de l'anxiété. Donc, c'est pour ça que dès l'âge de 7 ans, on a commencé à voir qu'il y avait des petits détails dans son alimentation qui nous faisaient se sensibiliser à ça. Donc, elle a été prise en charge par le CLSC. Avec la pandémie, il y a eu comme un petit break, mais c'était pas très stable. Après ça, on a continué le suivi avec le CLSC. On avait l'impression que ça allait beaucoup mieux avec le retour en classe. Mais en décembre, on a vu encore des signes s'accentuer. Et puis, petit à petit, ça s'est aggravé.
Quand vous dites que c'est attribuable à l'anxiété, ça se manifestait de quelle façon? Elle ne mangeait pas du tout?
Alors, c'est vers l'âge de 9 ans que vraiment c'est devenu très grave. C'est-à-dire que son anxiété est devenue très envahissante. Et en fait, son anxiété, à la base, c'est la peur de vomir. Elle avait vomi une fois dans l'avion, puis elle avait ressenti un petit peu le dégoût de notre famille, un petit peu parce que c'était pas fantastique, disons, dans l'avion. Mmh. Puis peut-être que ça s'est comme gravé en elle. Puis après ça, l'anxiété a fait que ça a comme cristallisé, on va dire, cet événement-là en elle. Et puis, c'est passé sous silence pendant presque 2 ans. Mais à l'âge de 9 ans et demi, ça a commencé à vraiment être critique. Elle commençait à, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, à gérer son alimentation d'une drôle de façon, à limiter les quantités qu'elle mangeait, à beaucoup vérifier la qualité des produits. Elle était pourtant suivie par une psychologue pendant toute cette période-là. Et puis nous, on était très attentifs quand même. Mais quand on est parent, parfois, on a tendance à avoir le nez trop collé sur l'enfant puis pas voir comment ça se détériore vite.
Est-ce qu'elle perdait du poids? Est-ce que son état de santé se dégradait?
Alors, pendant de 7 à 9 ans et demi, pas vraiment. Ça allait quand même bien. Puis à 9 ans et demi, tranquillement, elle était de plus en plus fatiguée. Mais je pouvais pas vraiment remarquer que c'était à cause de l'alimentation parce que des fois, c'était en revenant de l'école, elle disait « Oh, je suis fatiguée ». Après ça, je dis « Ben, mangez un petit quelque chose ».« Oh non, je viens de manger ma collation ». Elle commençait à tricher un petit peu, à nous mentir, à nous dire qu'elle avait mangé des choses, mais c'était pas tellement vrai. Au souper, elle mangeait moins, de moins en moins. Ça a été très graduel, on va dire, de décembre à mars. Tellement graduel qu'on s'en apercevait pas. Jusqu'au jour où, je dirais, peut-être fin février, une une personne qui travaillait à l'école m'a dit « Oh, je trouve qu'elle maigrit vite ». Puis là, ça m'a comme réveillée. Puis j'ai dit « Ben, c'est vrai qu'elle maigrit quand même vite en ce moment ». Je mettais ça un peu sur la poussée de croissance. Puis les médecins ont tendance toujours à nous dire « Ah, oh, mais non, un enfant, ça se laisse pas mourir de faim hein. ». Puis elle était gourmande quand même. Puis je voyais pas les signes très clairs, en fait. C'était pas aussi clair qu'on pense que ça l'est.
Mais est-ce que c'est vrai qu'elle elle a vraiment dépéri à un point tel qu'elle était incapable de marcher ou en tout cas avec beaucoup de difficultés?
Exactement. En fait, en l'espace de peut-être 3 semaines, elle était rendue à ne plus s'alimenter du tout, en trichant, en déplaçant la nourriture dans son assiette. Elle mangeait des petites bouchées quand on la forçait, qu'on était face à elle. Elle mangeait avec difficulté. Mais on voyait qu'en l'espace de 3 semaines, elle avait plus d'énergie jusqu'au moment où une amie très proche, en fait, quand elle l'a vue, elle m'a dit non, là c'est grave, il faut que tu consultes tout de suite.
Oui, vous êtes allé à l'hôpital de Montréal pour enfants, le Children. Comment on traite une jeune fille comme ça, puis comment on l'amène à ou on arrive à lui réapprendre à manger finalement?
Ah, c'est un long cheminement. En tout cas, dans notre cas, ça a été un long cheminement. Pas pour la prise en charge, parce que la prise en charge a été immédiate. Elle était vraiment tellement amaigrie, tellement faible. Elle avait des problèmes de santé relativement graves. Donc, tout de suite, en fait, le Children, aux urgences, ont fait un appel pour demander à la pédiatre de la clinique des troubles alimentaires de venir faire une consultation. Et elle est venue, elle a pris 1 heure de son temps avec nous pour examiner un petit peu toute la situation familiale, puis vérifier qu'il y avait quand même un lien entre notre fille et nous. Et après ça, elle a pris la décision de laisser Eva rentrer à la maison avec nous. Puis elle a quand même réussi à mettre en place autour de notre fille tout un milieu pour avec du support beaucoup familial et du support pour l'enfant. Donc à ce moment-là, Chloé était prise en charge. Puis elle était vraiment c'était une prise en charge quasi quotidienne. C'est-à-dire que on avait des appels téléphoniques avec l'équipe, il y avait des rencontres virtuelles tous les 2 jours. Je devais aller à la clinique peut-être 2 fois par semaine au début pour la prise de poids, vérifier aussi beaucoup les tout ce qui était médical en fait sur notre fille.
Je comprends que ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est un long processus, c'est un long combat avec votre fille.
Absolument.
Pour l'amener à manger à nouveau correctement.
Oui, parce que Chloé, au début, elle se débattait. Elle se débattait vraiment physiquement, elle hurlait. Elle ne voulait pas, elle refusait de manger. Donc, ça a été beaucoup de patience qu'il a fallu apprendre à avoir et en même temps d'autorité. Et puis ça, c'est pas facile parce que souvent, l'un et l'autre, c'est difficile à combiner. Donc, c'est l'équipe qui nous a appris, avec la psychologue, nous a appris à être en même temps autoritaire pour la nourriture, mais d'une façon douce et calme pour mettre en confiance l'enfant.
Et puis,
mais c'est un long processus. Hein. Sincèrement, ça ne s'est pas fait en un mois. Ça a pris presque 2 ans.
Et aujourd'hui, comment elle va, Chloé?
Vraiment bien. C'est sûr qu'on est toujours en alerte. On vérifie toujours les quantités qu'elle mange, les quantités, la qualité de ce qu'elle mange aussi. Mais elle est redevenue gourmande, elle aime manger, elle a énormément d'énergie, elle a repris ses activités sportives. Vraiment, la clinique et toute l'équipe ont été d'un énorme support. Elle n'a jamais été hospitalisée, donc elle n'a jamais vécu ce stress d'être hospitalisée. Pourtant, elle était vraiment très amaigrie. Elle avait pratiquement la moitié du poids qu'elle a aujourd'hui. Elle a repris 25 kilos. En l'espace de 2 ans.
Ben, bravo et continuez votre travail auprès d'elle. Merci beaucoup. Magali, c'est la maman de Chloé. Et on a toujours peut-être en tête des cas de problèmes alimentaires à l'adolescence ou les jeunes adultes, mais à partir de l'âge de 7 ans, anxiété qui se traduit là par une lente descente, mais au point de ne plus être capable pratiquement de marcher et de perdre beaucoup de poids. Et faut souligner le travail de l'hôpital de Montréal pour enfants, le Children. D'ailleurs, la fondation qui a reçu, et ce sera annoncé plus tard aujourd'hui, là, un soutien financier de la compagnie Bell.